Nous poursuivons notre étude sur la théologie réformée systématique. Nous en sommes à la leçon 10. On va étudier les fondements théologiques de la révélation divine. Donc, à l'intérieur de ce titre-là, fondements théologiques de la révélation divine, nous allons développer trois idées principales. La première, on va regarder d'abord la terminologie biblique, les mots utilisés à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, qui nous parlent de la révélation divine sous toutes ses facettes. La deuxième proposition qu'on va regarder, c'est la perspective biblique de base de la révélation divine. Et la troisième idée qu'on va regarder, qu'on va développer, c'est un exposé sommaire sur la doctrine biblique de la révélation divine. Alors, comme nous ne pouvons pas voir Dieu, nous devons l'entendre si nous voulons le connaître. Les plus de 800 répétitions de « Ainsi par l'Éternel » ou « Dit le Seigneur » dans la Bible nous donnent une grande assurance que le Dieu invisible s'est fait connaître. Le conflit entre la parole de Dieu et les systèmes de croyances idolâtres de l'homme a toujours fait rage dans l'Église professante. Mais la parole de Dieu survivra à tous les systèmes humains, car les pensées de l'homme ne sont qu'un souffle, mais la parole de Dieu demeure éternellement. On va aller regarder quelques passages des Écritures concernant ce qu'on vient de dire. Le psaume 94, verset 11. « L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. » Ésaïe, chapitre 40, versets 6 à 8. « Une voix dit, « Crie !» Et il répond, « Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » On va le voir aussi dans le Nouveau Testament, dans le 8e chapitre de l'Évangile de Jean, les versets 31 et 32. « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Dans cette leçon, nous présenterons le concept de révélation divine en examinant sa terminologie biblique et en présentant une perspective biblique de base sur le sujet. Donc, on va commencer par regarder et développer la première idée, celle de la terminologie biblique de la révélation divine. On va diviser ça en deux parties. La première partie, ça va être la terminologie dans l'Ancien Testament, et on suivra par la terminologie dans le Nouveau Testament. Bien que Dieu ait envoyé des prophètes et des apôtres pour proclamer sa parole, la Bible dépeint souvent Dieu lui-même comme le sujet de l'acte de communication. Dieu apparaît, Dieu parle et Dieu révèle. On va regarder les trois idées de Dieu apparaît, Dieu parle et Dieu révèle. On va regarder par la première, Dieu apparaît. Dans le chapitre 12 du livre de la Genèse, au verset 7, nous lisons « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. » Alors, on voit dans le verset, à deux reprises, l'Éternel apparu. Alors, on va aller regarder un autre verset, dans Genèse chapitre 17, verset 1. « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alors, une chose intéressante là-dedans, c'est qu'à l'intérieur du même verset, on parle de l'apparition. L'Éternel apparaît et aussi on voit que l'Éternel parle et lui dit. Alors, les théophanies, qui sont des apparitions de Dieu, sont des manifestations visibles ou audibles de Dieu. Les apparitions du Seigneur ne sont pas isolées, mais elles introduisent généralement la parole divine. Comme on vient de le voir dans Genèse 17, verset 1, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit. Donc, il y a l'apparition et il y a des paroles qui suivent. Donc, on avait parlé de Dieu apparaît, Dieu parle aussi. On va aller regarder l'idée de Dieu parle dans l'Ancien Testament. Alors, 1 Samuel, chapitre 3, verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alors, la Bible hébraïque rapporte souvent les communications de Dieu avec la terminologie couramment utilisée de la parole humaine. Alors, on va regarder différents mots hébreux qui sont utilisés dans l'Ancien Testament qui parlent du fait que Dieu parle. Alors, le mot « amar » en hébreu, qui veut dire « dire », le mot hébreu « amar » apparaît plus de 5000 fois dans l'Ancien Testament en faisant référence au fait que Dieu dit des paroles. La phrase « ainsi parle l'Éternel » est utilisée plus de 400 fois pour désigner le message solennel et plein d'autorité de Dieu, soit pour le jugement ou soit pour l'espoir. Beaucoup d'autres mots hébreux sont utilisés pour véhiculer le fait que le Seigneur communique avec son peuple pour les enseigner, les guider et les instruire dans ses vérités. Allons regarder, par exemple, le psaume 25, les versets 4 et 5 et les versets 8 et 9. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Et les versets 8 et 9. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Le mot Torah signifie « instruction » et fut le nom que les Juifs donnèrent aux cinq premiers livres de la Bible. Bien entendu, plusieurs autres termes hébreux s'y rattachent, comme on voit dans le psaume 119 les mots « statut »,« jugement »,« témoignage »,« précepte », »,« commandement ». Alors, on va aller lire les versets 10 à 16 du psaume 119, on sait que le psaume 119 est un psaume qui parle de la parole de Dieu. Alors, on va aller regarder les versets 10 à 16. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. » Un autre terme hébreu utilisé est « gala », signifiant « révéler » ou « découvrir ». Par exemple, dans le livre des Nombres, au chapitre 22, verset 31. « L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Le mot hébreu « gala » se traduit souvent par « découvrir »,« révéler »,« ouvrir les yeux », »,« soulever » ou « montrer ». Par exemple, dans Amos, chapitre 3, le verset 7, ça dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé » et le mot hébreu, c'est « gala », son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ainsi, révéler, c'est dire un secret. On lit dans Job, chapitre 12, verset 22, dans la version Sterval, « Il met en évidence les profondeurs cachées dans les ténèbres, il amène à la lumière l'ombre de la mort. » Alors, cette terminologie de la révélation met l'accent sur la souveraineté de Dieu à se faire connaître et sur notre dépendance de lui si nous voulons le connaître. Deuxième partie qu'on va regarder, on a regardé l'Ancien Testament, la terminologie, on va regarder maintenant la terminologie dans le Nouveau Testament. De la même manière que dans l'Ancien Testament, le grec du Nouveau Testament utilise des termes pour décrire les communications de Dieu avec les hommes. Par exemple, le mot grec « laleo » est utilisé plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Prenons l'exemple de Matthieu, chapitre 10, verset 22. « Car ce n'est pas vous qui parlerez, qui est le mot « laleo », mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera, encore une fois, « laleo » en vous. » Alors, quand on voit dans ce verset-là, « parlerez » et « parlera », c'est le verbe « laleo » en grec qui est utilisé. Dans Hébreu, chapitre 1, les versets 1 et 2, nous lisons « Dieu, ayant autrefois parlé, verbe « laleo », à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par les prophètes, nous a parlé, encore une fois le verbe « laleo » en grec, en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles aussi il a fait le monde. » Il y a aussi le verbe grec « lego » qui est souvent utilisé. Par exemple, dans Apocalypse, au chapitre 21, verset 5, « Et celui qui était assis sur le trône dit, » alors le mot « dit », c'est « lego », « voici, je fais toutes choses nouvelles, puis je me dis, » au pluriel, c'est « logos », écrit, car ses paroles sont véritables et certaines. Le deuxième mot grec principal qui décrit les Écritures est « rhéma », qui fait référence à un mot qui est prononcé et signifie un énoncé. Un « rhéma » est un verset ou une partie de l'Écriture que le Saint-Esprit porte à notre attention avec une application à une situation actuelle ou à un besoin de direction. On lit par exemple dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, « Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le mot « parole », c'est « rhéma ». Et Jean, chapitre 6, verset 63, « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vérité. » Les paroles, c'est le mot « rhéma » dans le grec. Un autre mot qui est utilisé, le mot « apocalypto » est employé et signifie « révélé ». Alors Matthieu, chapitre 10, verset 26, « N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché, calopto, qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus, apocalypto. » Alors on voit calopto, c'est caché, apocalypto, c'est enlever ce qui est caché. Alors l'apocalypse, c'est ça, c'est enlever le voile. Nous pourrions poursuivre notre étude avec plusieurs autres mots, véhiculant une forme ou une autre de communication divine. Didasco, qui veut dire enseigner, gnosis, qui veut dire donner connaissance, deleo, qui signifie signifier, phanero, qui signifie manifester, épiphénia, qui signifie apparaître, et d'autres. Alors, bien sûr, ce n'est pas une étude exhaustive sur l'utilisation des mots pour démontrer que le Seigneur parle dans le Nouveau Testament. En résumé, la terminologie de la communication divine dans l'Ancien et le Nouveau Testament se résout autour de trois axes principaux. Premièrement, l'idée d'un message verbal de Dieu sous une forme que les êtres humains peuvent recevoir, comprendre et répéter. Deuxièmement, l'idée d'une révélation gracieuse, d'une vérité divine cachée, que l'homme ne peut découvrir par lui-même. Et troisièmement, l'idée d'une intrusion de la gloire éternelle dans notre existence ordinaire et mondaine. Donc, on va regarder la deuxième idée qu'on va développer, c'est la perspective biblique de base de la révélation divine. Le grand théologien Herman Bavinck a écrit « Un vrai concept de révélation ne peut être dérivé que de la révélation elle-même. » Nous abordons le sujet de la révélation de la même manière que les enfants abordent l'apprentissage du langage, non pas avec une analyse linguistique indépendante, mais en écoutant nos parents parler et en répondant avec confiance et imitation obéissante. Toute autre approche serait dysfonctionnelle. Alors, la première chose qu'on va regarder dans la perspective biblique de base de la révélation, c'est que la révélation du Dieu souverain se fait au porteur de son image. On dit dans les Écritures, dans Genèse, que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, comment il a d'abord voulu se révéler au porteur de son image? La révélation au moyen de la création. La Bible ne s'ouvre pas avec des arguments pour prouver l'existence de Dieu. Elle déclare seulement, au commencement, « Dieu créa les cieux et la terre ». La simple phrase « Dieu dit » apparaît 10 fois en Genèse chapitre 1. C'est une affirmation étonnamment claire que le Créateur du monde est le Dieu qui parle. La révélation suppose Dieu et le proclame. En particulier, la révélation proclame un seul Dieu souverain qui règne sans limite ni concurrent. Excusez-moi, l'antithèse du polythéisme. Donc, polythéisme, ça veut dire plusieurs dieux. La Bible commence déjà en affirmant qu'il n'y a pas plusieurs autres dieux que Dieu, que le Créateur. Donc, il est la source débordante de toute bénédiction et de tout bien. Il agit avec une autorité absolue en tant que propriétaire de toutes choses et en tant que juge dont l'évaluation est la norme de toutes choses. Dieu n'est pas une force aveugle dans la nature, mais un être personnel qui agit avec un ordre sage et entre en relation personnellement avec les êtres humains qu'il a créés. Alors, on pourrait tout aller regarder ça dans le chapitre 1. Toutes les choses que je viens de nommer, là, je pourrais vous nommer tous les versets, il y en a beaucoup, qui développent les idées que je viens de vous donner là. Genèse 1 donne le ton à toute la Bible en tant que révélation de soi du Dieu vivant. Ce n'est pas un hasard si le mot traduit par « Dieu » en hébreu, c'est « Elohim », apparaît 35 fois dans les 33 premiers versets de la parole de Dieu. La Genèse présente également le Créateur comme distinct de sa création. Donc, c'est la polémique la plus forte possible contre le panthéisme. On voit que dès le premier chapitre de la Genèse, plusieurs problèmes sont réglés. Le polythéisme, il n'existe pas plusieurs dieux, et le panthéisme de croire que la création elle-même est Dieu. Dieu est distinct de sa création. Deux grandes erreurs donc sont éliminées dans le chapitre 1 du livre de la Genèse. Le polythéisme, donc il prétend qu'il y aurait plusieurs dieux, et le panthéisme qui pense que tout est Dieu, comme l'enseigne le Nouvel Âge moderne. L'œuvre créatrice de Dieu a atteint son paroxysme dans la création de l'homme, la dernière de ses œuvres. Dieu se révèle à ses porteurs d'images dans un triple schéma, ou pattern en anglais, impliquant trois choses. La création naturelle, deuxièmement, la communication verbale, et troisièmement, la recréation de l'homme déchu à l'image de Dieu. Le psaume 19 illustre ce fait. Les versets 1 à 6 sont un hymne au Seigneur pour sa création. Les versets 7 à 14 sont un hymne à sa parole. Et les versets 10 à 14 manifestent aussi une autre dimension, la réponse à l'œuvre secrète du Saint-Esprit sur le cœur du croyant régénéré. Alors, revoyons un peu ce triple schéma ou pattern. Le premier, la révélation de Dieu dans sa création, qu'on appelle souvent dans les livres de théologie la révélation générale. Comme nous l'avons déjà vu, la création de Dieu témoigne de son éternité, de sa puissance, de sa sagesse, de sa personnalité, de sa bonté et de son autorité. Dieu a créé l'homme à son image, ce qui implique qu'il y a une révélation de Dieu dans la nature humaine elle-même. Les cieux révèlent la gloire de Dieu. Cette révélation est continuelle et universelle. Si la création est comme un prédicateur, cela implique que Dieu l'a organisée pour qu'elle soit une voix que l'homme peut comprendre. Si le monde ne révélait pas Dieu que dans une facette obscure de la physique subatomique ou de la biologie cellulaire, l'humanité pourrait ne pas le comprendre. Cependant, Dieu a conçu la création pour nous révéler sa nature à tous. Donc, la deuxième partie du schéma ou pattern, c'est la révélation de Dieu dans sa parole. Donc, il s'est révélé dans sa création, il se révèle aussi dans sa parole, qu'on appelle souvent en théologie la révélation spéciale. Le premier acte de Dieu envers l'homme, enregistré dans la Bible, après que Dieu l'a créé, était une révélation verbale pour la relation et le service. Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » On voit bien dans le verset 27, verset 28, c'est-à-dire, « Et Dieu leur dit. » Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, « L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Après la chute, Dieu parla à l'homme verbalement et lui demanda de lui rendre des comptes, dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 13. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit, « le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » On sait que Dieu a ensuite parlé, il a prononcé son jugement sur le tentateur, qu'on peut le lire dans les versets 14 et 15 du chapitre 3 de la Genèse. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ensuite, le Seigneur Dieu prononça son jugement sur l'humanité dans Genèse chapitre 3, versets 16 à 19. Et il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Et la troisième idée du triple schéma ou pattern, c'est la révélation de Dieu qui est vue dans la réponse des élus à la parole de Dieu. Donc, ce qu'on pourrait appeler la révélation appliquée. Dieu a promis que son peuple réponde à l'œuvre de grâce dans leur âme. La voix de Dieu trouve un saint écho dans le cœur des pécheurs régénérés. Genèse chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Bien que Satan ait persuadé la femme de rejeter la parole de Dieu, le verset 4, Dieu se retourne contre le diable pour qu'elle et sa postérité fassent à nouveau confiance à la parole de Dieu, qui culmine en Christ, qui écraserait la tête du serpent, dans le verset 15. Ainsi, d'Ève déchue, Dieu a suscité une lignée d'hommes comme Abel, Enoch et Noé, dans les chapitres 4 et 5 de la Genèse, qui ont vécu par la foi dans la parole de Dieu. On lit par exemple dans Hébreux, chapitre 11, versets 4 à 7, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Le véritable croyant aime la parole de Dieu et l'écoute avec une grande attention comme un guide fiable et source aussi d'avertissement. Elle apporte de plus une grande récompense. On lit dans le psaume 19 au verset 11, « Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. » La prière doit jouer un rôle majeur dans l'utilisation de la parole de Dieu. La prière montrera au croyant la profondeur de ses péchés et la nécessité absolue de grâce pour se sanctifier et pour plaire à Dieu. On lit dans le psaume 19, versets 12 à 14, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. » Troisième et dernière idée, on va faire un exposé sommaire sur la doctrine biblique de la révélation divine. Dieu se révèle à l'homme avec une liberté absolue. Dieu communique des vérités que l'homme ne pourrait jamais découvrir de sa propre initiative. Une telle révélation vient du souverain et unique Seigneur et est dirigée intentionnellement vers l'homme, et il le fait sous des formes humaines que l'homme peut comprendre et recevoir, et pourtant une telle révélation est la gloire éternelle qui fait irruption dans le monde de l'homme. La révélation divine objective se présente sous deux formes fondamentales qui sont résumées dans la confession de foi belge ou des Pays-Bas qu'on appelle, ou le nom latin c'est Confessio Belgica, elle existe en français. Je l'avais déjà donné dans une leçon antérieure. Alors, la Bible dit que nous le connaissons en parlant de Dieu par deux moyens. Premièrement, par la création, la conservation et le gouvernement de l'univers, qui s'offre à nos yeux comme un livre magnifique dans lequel toutes les créatures, petites et grandes, sont comme autant de lettres qui nous amène à contempler les choses invisibles de Dieu, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa divinité, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 1, verset 20. Toutes ces choses sont suffisantes pour convaincre les hommes et les rendre inexcusables. Deuxièmement, il se fait connaître à nous plus clairement et plus pleinement par sa sainte et divine parole, aussi pleinement que nous en avons besoin dans cette vie, pour sa gloire et pour le salut des siens. Alors, ceux qui auront les notes, il y a plein de références, vous pouvez aller voir les versets. Troisièmement, Dieu rend la vérité de la révélation spéciale et surnaturelle efficace pour les gens par la révélation appliquée du Saint-Esprit, afin que la lumière brille non seulement sur nous, mais en nous. Comme le dit la Confession de foi belge, article 24, « La vraie foi est forgée dans l'homme par l'écoute de la parole de Dieu et l'opération du Saint-Esprit. Par conséquent, examinez-vous. Comment ai-je répondu à la révélation de Dieu? Est-ce que j'aime la parole de Dieu et l'écoute comme la voix de Dieu? Est-ce que je la renvoie à Dieu dans mes prières pour justifier la grâce et la sanctifier? Ai-je envie de plaire à Dieu? Ai-je foi en Christ? » Alors, je vois trois applications qu'on peut faire à partir de ce texte-là, de cette étude aujourd'hui. Première application, adorons et louons notre grand, glorieux, souverain Seigneur qui s'est révélé à nous. Louons-le pour sa révélation par la création. Chaque jour, nous pouvons admirer ses œuvres, toutes plus belles les unes que les autres. Le ciel étoilé, la terre et la mer qui sont remplies de créatures merveilleuses, du microcosme, donc toute la partie de la création qui est invisible à l'œil, le soleil, la lune, les planètes, les animaux et les plantes, et beaucoup d'autres choses. Deuxièmement, que notre Dieu merveilleux soit exalté pour sa révélation par sa parole. La parole de Dieu est d'une richesse et d'une perfection infinie comme celui qui l'a donnée. En elle, nous trouvons le chemin du salut et de la vie éternelle. En elle, nous trouvons une lumière pour éclairer notre marche, une instruction pour montrer comment vivre, un encouragement, un guide et une multitude d'autres choses. Aimons-la en l'écoutant, en la méditant, en la mémorisant, en la lisant et en l'étudiant. Obéissons à tout ce qu'elle nous commande, nous y trouverons la joie, le bonheur et la satisfaction de l'âme. Troisièmement, prenons conscience aussi de la révélation appliquée, c'est-à-dire la réponse que l'âme des élus donne à la parole de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit et qui transforme les vies pour la plus grande gloire de Dieu. Loué soit le Seigneur pour sa triple révélation. Profitons-en et jouissons-en abondamment par sa grâce et pour sa gloire. Amen.